Radio Prague, les informations.
Et Václav Klaus a assisté à la grande revue militaire à Moscou. L'aéroport de Prague menacé de suspension du trafic aérien. Résultat du marathon international de Prague. Le président tchèque Václav Klaus a participé à la grande revue militaire organisée à Moscou à l'occasion du 65e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été également reçu dans la matinée de ce dimanche par son homologue russe Dmitri Medvedev. Selon le président tchèque, il est bien que des unités des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne et de Pologne aient participé à la revue militaire de Moscou. Des milliers de personnes se sont recueillies ce dimanche à Prague à la mémoire des soldats de l'armée rouge tombés dans les combats de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parmi ceux qui se sont rendus au cimetière d'honneur de Prague-Olchani, où reposent ces soldats, il y avait beaucoup de ressortissants russes. Parmi les personnalités politiques qui ont rendu hommage à ces soldats et ont déposé des gerbes devant leur monument, il y a eu, entre autres, la ministre de la Justice, Daniela Kovářová. Le nuage de poussière provenant d'un volcan d'Islande continue à compliquer le trafic aérien en Europe. Samedi, un grand nombre de vols a été annulé en Espagne et au Portugal. Dimanche, le nuage volcanique a atteint l'Allemagne, l'Autriche et il peut atteindre aussi la République tchèque. L'aéroport de Prague a supprimé certains vols sur les lignes reliant la capitale tchèque avec Milan et Bologne, mais les organes compétents refusent de dire pour le moment s'ils envisagent eux aussi de suspendre le trafic aérien. Le Premier ministre tchèque Jan Fischer effectuera lundi et mardi une visite de travail en France. Il rencontrera entre autres son homologue français François Fillon et la ministre de l'économie Christine Lagarde. Bien que ce voyage soit consacré d'abord aux relations bilatérales franco-tchèques, Jan Fischer envisage de se pencher avec ses interlocuteurs français aussi sur la problématique européenne, y compris la crise économique. Bien que le festival Printemps de Prague ne commence officiellement que le 12 mai par le cycle de poèmes symphoniques de Bedřich Smetana « Ma patrie », le programme non officiel commence déjà dans la soirée de ce dimanche dans la grande salle du Rudolfinum par la grande messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. C'est la capitale tchèque qui a servi de cadre ce dimanche à la 16e édition du marathon international de Prague. Le marathon a été remporté par le coureur du Kenya, Eliud Kiptanui, 26 ans, en 2h05min39s, devant l'Éthiopienne Yeman Tsegay et un autre Kenyan, Nicolas Kerr. Un record du marathon de Prague a été réalisé côté femmes avec le temps de 2h25min29s. La Kenyane Helena Kiprop a dépassé d'une minute la performance réalisée il y a déjà 9 ans. Météo. Ce dimanche, fête des mers et aussi fête de tous les Ctibores. Selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuagé à variable. Il pleut par endroits et les températures ne dépassent pas 19 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission culturelle. Mercredi soir s'est déroulée la dernière première de la saison théâtrale du studio Saint-Germain, la petite scène alternative du Rock Café à Prague. Spécialisée dans la mise en scène de pièces françaises ou plutôt francophones, grâce aux traductions de Jaromír Janáček, le studio Saint-Germain est également une occasion unique pour de jeunes comédiens de la DAMU, l'école de théâtre tchèque, de participer à des projets de théâtre importants. Parmi les pièces du répertoire, vous le savez, Terre Sainte de Mohamed Kassimi, Léviathan Coxis de Jean-Daniel Magnin. Pour cette dernière pièce de la saison, le studio Saint-Germain a choisi de présenter Burn Baby Burn de Karine Lacroix, un huis clos mettant en scène trois personnages, deux jeunes filles un peu paumées qui se tombent dessus par hasard et que finira par lier à la vie, à la mort, le meurtre imprévu d'un livreur de pizza. Si la pièce semble se passer en France, dans une station-service isolée, elle pourrait tout aussi bien se dérouler ailleurs et on ne peut s'empêcher d'imaginer un décor type Nevada perdu au au milieu de la caillasse et du sable, accablé par un soleil de plomb. Après la première tchèque de sa pièce, Karine Lacroix a replanté pour nous le décor de son récit.
Alors c'est une histoire qui se passe dans une station essence désaffectée, où deux filles vont se rencontrer. Il y en a une qui apparemment vit là, et une autre qui débarque comme ça, c'est un peu au milieu de nulle part. Elle est en transit, elle va aller dans le village voisin. Et puis, donc, c'est l'histoire de cette rencontre, en fait.
Et de ce qu'elle va apporter au fur et à mesure de la découverte de l'une et l'autre.
Deux personnes qui sont, qui ont comme point commun leur âge, mais sinon, qui sont assez différentes, puisqu'il y en a une qui est un peu, on pourrait dire, homeless, puisqu'elle n'a pas d'attache, elle vit là. Et l'autre qui vient du patelin voisin, qui est, un peu bloqué dans sa vie, qui trafique un peu de la drogue, qui a des histoires avec
des dealers,
en l'occurrence un, et qui est pas très à sa place aussi.
Voilà. Finalement, en commun, elles ont aussi la marginalité. Finalement.
Voilà. Ouais, pas tout à fait la même, parce qu'il y en a une qui a plus d'expérience, notamment avec la vie concrète, on pourrait dire, la drogue, le boulot. Il y en a une qui travaille, donc. Et puis les hommes, alors que l'autre apparemment elle n'a pas beaucoup d'expérience, et donc et il y en a une qui a celle qui habite dans la station essence, qui a justement pour combler un manque affectif, qui s'invente des histoires pour avoir l'impression d'exister. Voilà.
Oui, elle est très dans l'imagination, dans le rêve. Un peu comme les petites filles qui rêvent à des contes de fées, en fait.
Oui, sauf que ces contes de fées ressemblent certainement pas à ceux des petites filles, mais voilà, elle a envie de vivre à sa façon. Et sa façon, c'est, comme elle le dit à un moment dans la station essence, c'est écouter les petits oiseaux, regarder la vie, les plantes, le temps qui passe, parce qu'elle est pas adaptée, on va dire, à la société. Elle sait pas travailler, on sait pas trop d'où elle vient. Et on peut imaginer qu'elle s'est échappée d'un endroit où on l'avait placée. Et puis
c'est intéressant parce que on parle justement de leur caractère un peu marginal. Quand on pense marginalité, on pourrait penser, si on n'a pas vu la pièce, problèmes sociaux, voilà, d'intégration, etc., de personnes, de personnes dans la vie, etc. Mais en fait, c'est pas du tout une pièce ni politique, ni sociale, ni engagée dans le sens galvaudé un peu du terme. C'est vraiment une pièce de fiction, comme finalement, j'ai l'impression qu'on en fait plus beaucoup.
Ça, je sais pas, mais après, ça pourrait être aussi juste un fait divers. Cette pièce pourrait se résumer le lendemain de ce qui s'est passé dans cette station essence, puisque après, il y a une troisième personne qui arrive. Voilà, on a retrouvé quelqu'un. Ça pourrait être un fait divers, comme la fille le dit à la fin. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend que les gens viennent ou on s'échappe ? C'est comment ces filles-là peuvent en arriver à des situations où finalement elles vont être confrontées à un problème de société qui est, en tout cas en France et comme dans d'autres pays d'ailleurs, assez important, où la jeunesse est livrée à elle-même et du coup, à cause de beaucoup de frustration, en vient à des actes de violence, comme la fin de la pièce où il y a quand même quelqu'un qui y passe.
On sort de la pièce, là. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en scène
J'ai trouvé que c'était très, très vivant. Et j'ai beaucoup aimé parce que, déjà, les comédiennes correspondent bien à l'âge. Et j'ai vu tellement de versions différentes, notamment celle qui a été montée à Paris, où un des personnages avait une quarantaine d'années. Donc, c'était un parti pris de la metteur en scène. Et j'étais très frustrée. Et je trouvais que ça dénaturait le propos parce que, elles ont une jeunesse et elles disent des choses de leur âge. On ne peut pas ne pas avoir embrassé quelqu'un
À
40 ans, par exemple. Donc j'ai trouvé que c'était très, très intéressant et la musique aussi.
Parce qu'il faut dire qu'en effet, la pièce est entrecoupée d'intermèdes musicaux et il y a des pauses en fait qui servent un petit peu comme des actes en fait dans la pièce et qui sont justement accompagnés de musique et de chants ou de récitation en fait, un côté récitatif comme
ça. Pour ne pas cantonner les personnages à leur langage qui est un langage très simple, très
brut de décoffrage.
Voilà, j'avais envie entre ces dialogues de mettre des petits passages qu'on va dire poétiques, pour simplifier. Et c'est, ça a toujours été très intéressant pour moi de voir comment les metteurs en scène mettaient en scène ces textes. Parce qu'a priori, c'était pour la lecture. Et donc, il y en a certains qui les enlèvent, d'autres qui les disent en voix off.
Il y en a qui les enlèvent, hein.
Ouais, il y a des petits passages qui peuvent être enlevés. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était très bien parce que c'était jamais forcément la même personne qui disait ces textes-là. Soit c'était une des filles, soit c'était celui qui fera le garçon après. Et donc tous ces passages de musique, même la musique italienne qui est suggérée, non, j'ai trouvé ça vraiment très très bien.
Et pour ce qui est un peu du décor, de la mise en scène, avec voilà, cette vieille pompe à essence, cette vieille moto, les murs un peu en tôle, qui sont tapissés de vieux posters.
Ouais, c'est... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dans les costumes, les traces de saleté, de sueur, parce que c'est censé se passer en pleine chaleur, et on ressentait ça beaucoup. Et donc ça, j'ai bien aimé parce que je l'ai rarement senti. Donc là, ça m'a bien plu. Le personnage qui est pieds nus, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, et ça n'a pas toujours été respecté. Ça, après, chacun fait comme il veut, mais moi, j'aime bien que le personnage principal soit pieds nus.
Oui, on imagine bien finalement, par votre texte et par la mise en scène, comme vous dites, qui fait ressentir un peu toutes ces choses très, de l'ordre de... Oui, des sensations en fait. On voit comme les peaux cuisent finalement au soleil, et comme les gens, alors c'est pas les gens, c'est elle, cette fille qui est un peu paumée dans sa station essence, finalement est un peu accablée par sa vie, par le soleil et par la chaleur.
Quoi, voilà. Parce que, mine de rien, cette chaleur empêche la fille de partir.
De bouger.
Effectivement,
de bouger,
ouais. Il fait chaud, donc voilà, elle est en rade, donc ça veut dire qu'elle va rejoindre le patelin qui est peut-être à 5 km à pied, donc la chaleur est assez importante.
Oui, puis alors, évidemment, le titre de votre pièce, c'est Burn, Baby Burn. Alors, on peut penser à plein d'interprétations. Finalement, ça peut en effet venir de ce qu'on vient de dire, la chaleur. Ou alors, finalement, ils sont toujours dans ce contexte d'essence. C'est quand même une odeur particulière, l'essence. Et puis, bon, ça s'enflamme comme ça. Ou alors, le fait de se brûler les ailes, parce que c'est des toutes jeunes filles, mais qui se brûlent les ailes, finalement, petit à petit, au fur et à mesure qu'elles se découvrent.
Ouais. Bon, se brûler les ailes et brûler aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on est là, vivant, sur Terre? C'est aussi parce qu'on peut avoir la possibilité de brûler. Enfin, de brûler, c'est pour moi, c'est aussi vivre. C'est ne pas s'empêcher de vivre des choses. Bon, alors, en l'occurrence, c'est plutôt par la rencontre entre toutes les deux. Ouais, voilà, c'est pas mal de choses qui sont à la fois intérieures et à la fois extérieures.
Comment votre pièce a été ressentie, perçue en France, par exemple? Parce qu'il y a quand même des passages assez crus, assez hard. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est pas comme des pièces très modernes, parfois où tout le monde finit tout nu sur la scène. C'est pas du tout ça. Mais je pense vraiment dans la violence, à la fois psychologique ou des mots ou des rapports finalement entre les gens. Elles se rentrent dedans quand même les deux en se titillant comme ça.
Oui, mais ça c'est ce qui me plaisait dans ces personnages, c'est qu'elles prenaient pas de pincettes pour communiquer entre elles. Parce qu'elles n'ont pas appris la politesse, elles n'ont pas appris comment on dit bien les choses. C'est pas des personnages qui ont beaucoup de vocabulaire. Et ça a été perçu. Non, ça a été. On m'a jamais rien dit par rapport à ça. Mais par exemple, elle se roulait pas de joint à la Comédie Française. Alors que là, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est l'odeur. On sent bien
l'essence du l'essence, les joints,
le déodorant. Ouais, non, c'est ça, j'aime bien.
Donc
ce côté-là.
Un parti pris très réaliste.
Ouais. Et ça, ce côté-là, ce parti pris réaliste, j'aime bien parce que c'est lié au sens. Qu'il n'y ait pas de joint sur scène, je trouvais c'est particulier à cet âge, pas qu'à cet âge.
Et à cette ambiance.
Mais à cette ambiance, ouais, complètement.
Vous avez pas mal de cordes à votre arc. Vous êtes aussi comédienne. Vous avez écrit un roman poème, j'ai vu. Vous êtes auteur de textes de théâtre. C'est pourquoi votre cœur plutôt pour le théâtre ou un peu tout à la fois?
Pour l'écriture. Donc comédienne, j'ai arrêté parce que justement j'ai besoin de temps pour écrire. Et donc c'est l'écriture en général. C'est plus le théâtre parce que j'étais comédienne et justement le dialogue, c'est quelque chose, la répartie, ce qui se passe. L'échange, ce côté très très vivant qu'impose le théâtre, puisque c'est fait pour être joué. et entendu et ressenti le corps, alors que dans la littérature, on va dire romanesque, c'est un livre. Et puis voilà, c'est au lecteur de ressentir physiquement les choses. Et j'aime beaucoup le théâtre. Après, c'est vrai que j'aime bien écrire des chansons ou poésie, roman. Oui, mais c'est je le travaille un petit peu à côté quand j'en ai marre d'écrire du théâtre. Mais j'écris surtout du théâtre.
Et là, à l'heure actuelle, vous avez des projets en France, puisque voilà, cette pièce a quand même été écrite en 2006. Ouais. Elle a été mise en scène pour la première fois à la Comédie Française là en février. Du coup, il y a quand même un petit bout de temps qui s'est écoulé.
Ouais, bah écoutez, là il y a une autre de mes pièces que j'ai écrite qui devrait se mettre en scène. C'est toujours très long. Il y a deux fictions pour la radio qui ont été diffusées.
Donc des pièces radiophoniques.
Ouais. Et puis là j'ai différentes commandes, une commande d'un metteur en scène allemand, et puis je vais partir en résidence aussi pour deux autres projets, donc de théâtre aussi.
C'était donc la dramaturge française Karine Lacroix qui présentait à Prague cette semaine sa pièce Burn Baby Burn. C'est ainsi que s'achève cette rubrique culturelle. Merci d'y être fidèle. Vous pouvez évidemment la retrouver sur notre site internet au www.radio.cz. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Les autocars en provenance de toute l'Europe qui amènent chaque année près de 250 000 touristes à Térésine, Theresienstadt, témoignent de l'intérêt pour cet endroit tragiquement lié à la Deuxième Guerre mondiale. Nous aussi, nous y sommes rendus pour vous proposer un reportage sur le Mémorial national élevé en mémoire des 155 000 déportés passés par la prison et le ghetto de Térésine entre 1941 et 1945. Des juifs, des prisonniers politiques, des résistants, des intellectuels, des artistes et aussi des enfants. Notre jeune guide s'appelle Lenka Vandrovcová.
Nous sommes dans la cour d'administration, qui est la première cour juste derrière la porte portant l'inscription Arbeit macht frei, le travail rend libre. C'était la phrase apposée à l'entrée de tous les camps nazis. C'est ici que les déportés arrivaient et d'où ils étaient envoyés dans le bureau numéro 3 pour l'enregistrement. À partir de ce moment-là, tout le monde dans le camp n'était plus qu'un numéro.
À gauche de l'entrée, un des bureaux numéro 5 fut celui du chef de la petite forteresse de Térésine, Heinrich Jöckel. Ce dernier habitait une somptueuse villa avec une piscine et une salle de cinéma devant lesquelles on passe avant d'entrer dans la cour qui mène vers les cellules et les blocs A et B. Par la petite forteresse de Térésine transformée en prison nazie, près de 32 000 personnes sont passées et 2 500 sont mortes ici. Sur les 155 000 juifs internés dans la grande forteresse transformée en ghetto, 35 000 sont morts sur place, 80 000 autres après leur déportation dans des camps d'extermination. Au début, Térésine a été un camp de transit vers Treblinka et Majdanek, puis à partir de 1942 vers Auschwitz II, Březinka. Seuls 240 des 12 000 enfants du ghetto de Térésine ont survécu. L'ancien ghetto couvrait la surface de la ville tout entière, édifié en 1780 comme citadelle. Dans ce ghetto, les Juifs avaient leur propre administration, ainsi que leur lieu de prière, dont l'un, tout petit, se trouvait à l'intérieur d'une maison située à proximité de la place principale.
Ce lieu de prière est le seul qui était préservé, qui soit aujourd'hui accessible au public. Il a été découvert dans les années 90. Pouvoir prier, pratiquer le culte, donner des concerts, faire paraître un journal, toutes ces choses étaient d'une importance énorme pour les détenus. Cela les aidait à ne pas perdre la foi et à supporter les souffrances.
Hans Krása, qui a composé à Térésine Le Ronchon, son opéra pour voix d'enfant, dont des extraits sont diffusés lors de la visite du musée du ghetto, mais aussi Pavel Haas, Erwin Schulhoff ou Gideon Klein sont quelques-uns des artistes emprisonnés à Térésine. Accompagné de notre guide Lenka, nous entrons dans une des cellules communes de la petite forteresse.
Les planchers en bois sont authentiques, tout comme la table, les bancs, les étagères et les soupentes à trois lits. Essayez d'imaginer qu'une cinquantaine, et même à la fin de la guerre, une centaine de personnes partageaient une seule et même pièce. Des détenus mouraient victimes des conditions hygiéniques désastreuses, de maladies, de l'épuisement, de la famine, des tortures. C'était les principales causes de décès des détenus de Térésine, car il n'y avait pas de chambre à gaz.
À la sortie se trouve une plaque dédiée à Milada Horáková, politicien démocratique et député d'avant-guerre emprisonné par les nazis à Térésine, puis condamné à mort dans un procès stalinien des années 1950. Notre guide nous conduit dans une grande salle de bain, puis dans une autre où les détenus étaient rasés. L'édification de ces deux salles est liée à l'action dite d'embellissement qui s'est déroulée à Térésine avant la visite du Comité international de la Croix-Rouge, raconte-t-elle.
La délégation est arrivée à Térésine en juin 1944, elle y a passé 6 heures. Maurice Russell, officier de l'armée suisse, était le chef de cette délégation dont faisaient également partie deux médecins danois. Tout avait été préparé à l'avance pour que l'inspection se passe bien. Ils sont partis après avoir passé 6 heures dans le ghetto modèle de Térésine. Un rapport positif sur les résultats du contrôle du respect des conventions a même été rédigé. Après leur départ, les deux salles ont été fermées et les prisonniers ne les ont plus jamais utilisées jusqu'à la fin de la guerre.
« nous quittons la petite forteresse pour nous arrêter un instant au musée de ghetto qui se trouve dans le centre de Térésine, dans le bâtiment qui a servi pendant la guerre de foyer pour garçons. Alors arrivés à Térésine, les familles étaient séparées. Les enfants étaient tout d'abord placés avec leur mère, mais comme les parents travaillaient du matin au soir, les enfants étaient isolés et placés dans des foyers. Une exposition montre quelques valises et objets personnels, des dessins, des poèmes, ainsi qu'un journal que les garçons faisaient paraître. Sur les murs sont inscrits 8000 noms d'enfants morts à Térésine. Au premier étage du musée, une exposition évoque ce que devait être la solution dite finale de la question juive. Notre dernier arrêt est le cimetière national de Térésine, où se trouvent plus de 2000 tombes et 5 pylônes marquant des tombes communes. C'est ici qu'une cérémonie du souvenir a eu lieu, à l'occasion du 65e anniversaire de la libération du camp de Térésine, le 6 mai 1945. C'est la fin de cette demi-heure en français sur Radio Prague. Merci d'être resté avec nous. Passez une très bonne semaine. L'actualité tchèque continue sur notre site internet www.radio.cz. À bientôt. Nasledanou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio.